Tout un monde.
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir à tous, ce soir dans Tout un monde, cheval plus que richesse. Nous avons rendez-vous avec Jean-Louis Gouraud, passionné de chevaux, historien des cultures équestres, auteur de très nombreux ouvrages dont le dernier en date s'intitule « Petite géographie amoureuse du cheval ». Bonsoir Jean-Louis Gouraud.
Oui, bonsoir.
Alors, cheval plus que richesse, j'imagine que vous connaissez ce proverbe espagnol.
Non.
Non ? Ah ?
Non.
Alors voilà,
écoutez. Je suis pourtant l'auteur d'un inventaire de proverbes liés au cheval, mais vous voyez,
voilà.
Celui-là m'a échappé. Hein, si vous...
Alors, cheval plus que richesse, c'est une expression qui pourrait résumer votre parcours personnel à travers tous les continents où vous avez caracolé et où vous continuez de le faire comme journaliste, comme écrivain, à la rencontre des chevaux et des diverses manières inventées par les humains pour nouer des liens, travailler avec les chevaux, se déplacer bien sûr avec eux. Donc ces cultures équestres, ces arts équestres qui donnent leur nom d'ailleurs à une collection que vous dirigez. Et ce monde-là se révèle d'une richesse inouïe par l'inventivité en matière technique et puis par les imaginaires qui se déploient autour. Alors, vos enquêtes vous ont fréquemment conduit en Asie. Et on va surtout parler de l'Asie, terre d'origine d'Equus Caballus, où ce dernier fait un comeback remarqué, notamment autour de la Caspienne. Et puis, en fin d'émission, on évoquera le cas tout à fait étonnant de la Corée du Nord, où vous avez enquêté. Alors Jean-Louis Gouraud, d'où vient cette passion aussi constante à l'échelle d'une vie pour le cheval, et une passion jamais déçue?
Oui, très franchement, je crois que c'est une passion puérile. Je crois que c'est un élan, il y a quelque chose d'enfantin, en effet, malgré mon grand âge, je devrais avoir honte de l'avouer, mais c'est vrai que l'élan que j'éprouve vers le cheval ressemble beaucoup à celui qu'on voit, par exemple, quand à Paris, il y a des filets de chevaux. C'est assez rare, parce que la préfecture de police n'aime pas trop ça, mais...
On voit un peu la garde républicaine de temps en temps, on trouve un peu trottin sur le pavé.
Oui, bien qu'il y ait maintenant des voitures
ramasseuses
derrière la garde républicaine, mais on voit bien sur les trottoirs que les enfants s'arrêtent, se précipitent vers l'animal, tandis que les parents disent non, fais attention, c'est dangereux, approche-toi. Et moi, j'ai gardé cette espèce de côté, puéril, enfantin. Je continue, quand je vois un cheval, c'est peut-être le spectacle de l'innocence, d'ailleurs, qui me touche à ce point et qui déclenche chez moi bienveillance, sourire, amour, tendresse. Le spectacle du cheval, peut-être encore une fois le spectacle de l'innocence, comme d'ailleurs j'aime aussi beaucoup regarder les enfants. C'est un spectacle très, très tendre, très charmant, très...
Et ça commence comment pour vous, Jean-Louis Gouraud? Vous êtes d'une famille?
Justement, c'est ce qui accentue le mystère. C'est que je suis parisien, je suis né à Paris, bien que je sois né il y a très très longtemps, il y avait déjà plus de chevaux dans Paris, enfin, ou très rarement. Quand un cheval passait dans les rues pour livrer du lait ou du bois, ma mère se précipitait dans la rue pour ramasser le crottin, justement, parce qu'elle prétendait que ça aidait à la pousse de ses géraniums, oui, c'est ça. Mais enfin, non, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, et c'est très tardivement que j'ai pu fréquenter physiquement le cheval. Mais déjà, dans mon imaginaire, j'avais installé dans ma chambre à coucher je l'avais entièrement recouverte d'images, de photos, de posters, de représentations du cheval, et non pas de pin-up ou de rocker, tout ça. Donc voilà, c'est... Alors, D'où ça vient? Je crois que la seule personne qui ait apporté un début d'explication rationnelle, vous allez voir à quel point d'ailleurs elle est rationnelle, c'est en Inde, un vieux sage me dit, mais mon vieux, c'est très simple, vous êtes la réincarnation d'un cheval. Alors donc c'est bien possible que je me sois retrouvé avec, je retrouve chez les chevaux mes semblables.
Jean-Louis Gouraud, on va quitter le crottin de la garde républicaine sur le pavé parisien pour aller caracoler avec vous du côté de la Mongolie, puisque ce qu'on entend en ce moment, c'est justement la vielle mongole, la vielle cheval, hein, dont l'archet, je crois, est fait avec du crin de cheval.
Oui, alors, l'archet de cette vielle est fait évidemment avec du crin de cheval. Mais
les cordes aussi.
Et les cordes, oui. Mais c'est le cas aussi des violons, des violoncelles. Voilà, donc Rostropovitch n'existerait pas s'il n'y avait pas du crin de cheval. Hein, donc c'était,
et la tête, quand même.
Et alors, les Mongols, en effet, sculptaient le manche de leur instrument, donc le Mohenrohr, c'est-à-dire la vielle cheval. Ce qui était, elle sorte qu'il se termine par une petite tête de cheval. Et. Il y a à ce sujet toutes sortes de légendes très jolies, en particulier un amoureux qui aurait été victime d'une méchanceté de sa fiancée, qui aurait tué son cheval préféré, alors en caressant son cheval, en pleurant, de voyant son cheval agoniser, tout d'un coup, en caressant les crins, aurait surgi un son, et c'est de cette origine que serait née la vielle cheval, instrument, donc né du cheval.
Alors la Mongolie, puisqu'on va parler surtout de vos parcours en Asie, puisque dans cette petite géographie amoureuse du cheval, c'est l'Asie centrale qui occupe la place privilégiée. La Mongolie semble être le pays de l'excellence en la matière.
Ce qu'il faut déjà...
C'est la capitale mondiale du cheval.
Oui, c'est ça. Quand on prétend s'intéresser au cheval, on ne peut pas ne pas aller en Mongolie, comme un bon musulman ne peut pas ne pas aller à la Mecque. Puisque c'est le seul pays au monde, enfin le dernier en tout cas, où le nombre de chevaux dépasse le nombre d'habitants. Donc c'est une merveille pour les amateurs de chevaux. Ce sont des immensités de steppes dans lesquelles on peut galoper galoper est évidemment une... on ne galope pas comme dans les westerns 24 heures sur 24, mais ce sont des espaces infinis dans lesquels il fait bon se déplacer à cheval. Et c'est encore d'un usage courant. Il ne s'agit pas d'activités folkloriques ou touristiques. Les bergers, de nos jours, à l'heure où nous parlons, continuent à se déplacer à cheval, y compris aussi, d'ailleurs, les médecins, parce qu'il y a en Mongolie ce qu'on appelle des petits médecins, qui sont des espèces de super infirmiers, qui assurent la surveillance sanitaire dans toute une espèce de paroisse, et ils visitent les yourtes de leurs paroissiens, si je peux dire, ils les visitent à cheval. Donc... Il y a des coins de Mongolie où les enfants vont encore à l'école à cheval. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas un usage comme ça l'est devenu dans d'autres régions du monde. C'est pas un usage folklorique du cheval. C'est un usage pratique.
Alors dans vos enquêtes, justement, ce qui est passionnant, c'est que vous montrez à quel point les usages du cheval et les représentations peuvent varier. Et en Mongolie, vous louez la technique très brillante des cavaliers. On va entrer dans des détails un peu plus techniques. Vous nous dites que leur excellence est du côté de l'assiette. Donc oui. On est dans quelque chose de très, je veux dire, matter of fact.
Ils
n'ont pas des selles extraordinaires.
Sans rentrer dans des considérations savantes, il faut quand même distinguer en gros deux types d'équitation. Il y a l'équitation de travail. Et puis l'équitation savante. Les Mongols, comme les cow-boys, comme tous ceux qui utilisent du bétail, ne pratiquent qu'une équitation de travail, c'est extrêmement pratique, dans laquelle il vaut mieux avoir les mains libres. Donc il n'est pas question de faire un grand travail très compliqué sur la bouche du cheval, sur son encolure, etc. Il reste l'aide principale qui est ce qu'on appelle l'assiette, c'est-à-dire le poids du corps, selon la position qu'il prend sur le dos du cheval. Comment le cheval le ressent, c'est une indication qui permet de manier le cheval, de lui rendre une grande maniabilité, tout en conservant au cavalier les mains libres. Et alors, ils ont inventé pour ça une selle qui est en effet assez loin du dos du cheval, ce qui fait que le corps exerce une espèce de, par un système de levier, le corps transmet au dos du cheval des indications extrêmement claires. Voilà, donc c'est un type d'équitation. Alors évidemment, les Occidentaux qui débarquent là-bas ont beaucoup de mal à utiliser cette selle parce qu'elle a une forme particulière, parce que l'équitation qu'on pratique là-bas, c'est plutôt une équitation debout sur les étriers, alors que ici, en équitation classique, on vous enseigne plutôt à être au fond de votre selle. Donc, je recommande aux touristes qui voudraient essayer de se munir de leur propre selle pour quand ils veulent monter en Mongolie. Sinon, au bout d'une demi-heure ou trois quarts d'heure, ils auraient des escarres entre les cuisses qui pourraient être douloureux pendant une très longue période.
Alors, en Mongolie, il y a une rencontre annuelle qui est justement, puisque vous parlez des touristes maintenant, bien fréquentée par les touristes, c'est le Nadom, qui se déroule au mois de juillet. Mais ce qu'on apprend en vous lisant, c'est qu'il y a, et on peut espérer que c'est symptomatique d'une renaissance des cultures équestres, qu'il y a un certain nombre de jeux, de rencontres qui ont émergé tout récemment.
Oui, oui. C'est-à-dire qu'à l'époque
au Kyrgyzstan, notamment.
Voilà. Alors, dans toute cette région du monde, qui a été plus ou moins dominée de très près ou d'un peu plus loin par le système soviétique, c'est vrai qu'on avait eu plutôt tendance, par le système des kolkhozes, par le système aussi de l'embrigadement politique, etc., à amener les populations à oublier, à négliger, à écarter les traditions. Mais elles sont revenues, évidemment, quand il s'agit de chevaux, c'est normal, elles sont revenues au galop, dès les années 90, quand le système soviétique s'est effondré dans toute l'Union soviétique et ses voisins, puisque la Mongolie n'a jamais fait partie de l'Union soviétique, mais elle est évidemment sous influence soviétique. Et très vite ont été remis à l'honneur, en particulier ce qu'on appelle les jeux virils, qui sont la lutte, le tir à l'arc et l'équitation. Alors, c'est pas une équitation artistique, comme on peut le voir au cadre noir de Saumur, où on demande aux chevaux à faire des grimaces très jolies, très gracieuses, très harmonieuses. C'est pas de la chorégraphie. Là, au contraire, il s'agit
de l'efficacité, plutôt.
Et puis, ouais. Il s'agit de démontrer l'incroyable endurance et résistance de ces petits chevaux qu'on met dans la course la plus importante sur 40 km au galop. Donc vous voyez, c'est rien à voir avec les courses sur 1800 mètres qu'on trouve chez nous sur les hippodromes. C'est une course d'endurance. Et d'ailleurs, pour bien montrer que les qualités du cheval sont dues au cheval et non pas à son cavalier, on met sur son dos des enfants qui sont là uniquement pour que le cheval n'aille pas galoper dans le mauvais sens, mais qui ont en réalité assez peu d'action sur le cheval. Alors le paradoxe, enfin un des paradoxes, c'est que parmi ces jeux virils, il y en a un qui est ouvert aux femmes, et c'est en particulier le tir à l'arc. Et en effet, après 10 ans, 15 ans, enfin c'est une idée qui remonte à des temps déjà anciens, tous ces pays dont les jeux, les activités sportives ne sont pas reconnues par les Jeux Olympiques, en souffrent parce qu'ils se disent « mais on n'a pas de vitrine internationale, on fait des trucs extraordinaires et personne ne le sait ». Et donc, il y a très longtemps que traîne l'idée d'organiser une espèce de contre-jeux olympiques qui serait réservé justement aux jeux qui ne sont pas admis aux Jeux olympiques. Et ce vieux rêve a abouti l'année dernière, enfin.
L'été dernier,
au Kyrgyzstan, et ça s'appelle les Jeux nomades mondiaux, puisque, enfin, mondiaux, oui, ils le sont d'une certaine manière, puisque les participants viennent de chez les Ouïghours en Chine, viennent de l'Afghanistan, viennent de chez les Tatars, les Kalmouks en Russie, viennent de toutes ces régions où l'on pratique principalement des arts martiaux, et que ce soit à pied ou à cheval, donc une quantité très importante de variété de luttes. Alors il y avait des Turcs qui étaient présents massivement. Et alors, ils avaient eu la très très bonne idée d'installer ces jeux, de se débrouiller pour qu'ils se déroulent dans une magnifique vallée non loin du lac Issyk-Kul, une vallée vierge dans laquelle il n'y avait aucune espèce de trace de civilisation, ni poteau électrique, ni ligne à haute tension, ni quoi que ce soit. Et ils avaient installé là 1000, 2000 yurts. Et on avait la sensation, alors des yurts desquels surgissaient des personnages qui avaient des gueules extraordinaires, des nattes, des yeux bridés évidemment, des pommettes saillantes, des tenues avec parfois des carapaces en cloutées. Et on avait vraiment l'impression d'être dans un campement.
Toute l'Asie
venait converger. Oui, dans un campement de Chinggis Khan ou de Tamerlan, quoi. C'était tout à fait extraordinaire.
Mais ça a des implications politiques, un rassemblement comme ça aussi, non?
Oui, certainement. Rien n'est innocent. D'ailleurs, le cheval est un animal politique. Hein, donc, on le voit dans bien des pays. Il est réutilisé, remis en valeur. Si Monsieur Sarkozy, Monsieur Poutine, tous ces gens montent à cheval, c'est pas tout à fait innocent. C'était pour
démontrer quelque chose.
Démontrer quelque chose, voilà, sur lequel on ne s'étendra pas tout de suite. Mais alors, bien sûr qu'il y a une connotation peut-être pan-turque. C'est peut-être la raison pour laquelle la Turquie de Erdogan, paraît-il, a soutenu financièrement l'organisation de ces Jeux. Mais enfin, ce n'était pas le trait dominant. Le trait dominant, c'était que, en effet, tous ces pays qui pratiquent, par exemple, ce jeu extrêmement violent qui est connu en Afghanistan sous le nom de Buzkashi, on s'aperçoit que ce jeu-là est commun à tous les pays de la région. C'est-à-dire, il y a des équipes.
Qu'est-ce que
qui
c'est?
Viennent,
c'est un genre de polo, non?
Enfin, le Buzkashi, c'est ce jeu assez violent qui est magnifiquement décrit par Joseph Kessel dans Les Cavaliers, où la dépouille d'une chèvre est disputée par un groupe informel et non déterminé de cavaliers. Mais là, c'est un jeu à l'époque, enfin, dans son authenticité, c'est un jeu archi-individuel, puisqu'on est seul. Chaque cavalier est seul contre tous. Alors, depuis, pour qu'on puisse en faire un jeu, on a maintenant commencé à codifier ce jeu. Il y a deux équipes qui ont chacun des buts, etc. Mais en gros, il s'agit de s'emparer de la dépouille d'une chèvre ou d'un veau. Juste signaler au passage, pour que vous puissiez mesurer l'exploit, la dépouille pèse 40 à 60 kilos. Donc, il faut déjà une force herculéenne pour pouvoir l'arracher au sol et l'amener dans les buts, en essayant d'éviter toutes les embûches créées par les concurrents.
Alors ça rassemble donc un certain nombre de républiques d'Asie centrale. Alors, je voudrais, Jean-Louis Gouraud, que vous nous parliez aussi peut-être d'une des raisons principales aussi pour lesquelles vous avez beaucoup fréquenté l'Asie centrale. C'est un ou deux types de chevaux qui vous fascinent, et comme on n'a pas beaucoup de temps, celui qui semble être vraiment votre chouchou, et moi qui ne suis pas du tout de culture équestre, j'aimerais comprendre, c'est l'Akalteke,
fascine tous les amateurs.
Pourquoi? Alors, quelles sont ses qualités?
D'abord, à cause de cette apparence absolument extraordinaire, presque fabuleuse, pour essayer de trouver une comparaison que tout le monde puisse comprendre, la Akalteke est aussi différente des autres chevaux que le lévrier, par exemple, est différent des autres chiens. C'est-à-dire, c'est un animal, d'abord, qui a une allure extrêmement aristocratique, qui a la peau extrêmement fine, une peau de soie, qui a très peu de crin, et qui est monté sur de longues jambes sur lesquelles il se déplace avec une grâce, une majesté tout à fait exceptionnelle.
Et il est basé où?
Alors, le berceau de la race, de cette race-là, de ce type de cheval, je préfère parler de type que de race d'ailleurs, mais le berceau, c'est le Turkménistan. Et naturellement, depuis plusieurs siècles, cette race est connue, et donc elle a été... On la développe, il y a des élevages de Akalteke en dehors du Turkménistan, principalement en Russie, mais le berceau reste évidemment le Turkménistan. Et d'ailleurs, le Turkménistan en est extrêmement fier, c'est au point que, lorsqu'en 1990, le Turkménistan, du fait de l'effondrement de l'Union soviétique, s'est retrouvé indépendant, c'est un cheval qu'on a mis au centre des armoiries du Turkménistan indépendant.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
cheval plus que richesse aujourd'hui dans Tout un monde avec Jean-Louis Gouraud. Alors on n'a pas le temps, Jean-Louis Gouraud, de suivre vos pérégrinations telles que vous le racontez dans Petite géographie amoureuse du cheval qui vient de paraître, mais on vient d'entendre là une voix qui vient de Corée du Nord et ça nous amène vers l'un des chapitres de ce livre absolument passionnant, puisqu'on parlait à l'instant donc de l'importance symbolique du cheval. Et bien de manière très inattendue, la Corée du Nord est à fond dans la culture du cheval. Expliquez-nous ça alors.
Oui, il y a très très longtemps que j'étais intrigué par le fait que tous les dirigeants qui se sont succédés à la tête de ce pays de mauvaise réputation, tous ces dirigeants aimaient se faire représenter dans des fresques héroïques, se faire représenter à cheval. Je me suis donc dit que, puisque les dirigeants étaient à cheval, il devait y avoir des chevaux dans ce pays, et j'ai tenté depuis plusieurs années d'obtenir un visa d'entrée, ce qui n'a pas été très simple, mais qui, après 3 ans de démarche, a fini par se faire. Et je confirme que ma surprise a été assez grande, parce que en vérité, le cheval n'est pas utilisé en Corée du Nord. C'est un pays dont 70% de la surface est de la montagne, inculte, et les 30% restants, ce sont des rizières, et le cheval n'est pas un animal du tout adapté à la culture dans les rizières. On utilise des bovins. Alors il reste dans l'extrême nord, donc dans cette région très très proche de ce qu'on appelait autrefois, ou même qui en appartenait à ce qu'on appelait la Mandchourie, il reste en effet des steppes et des lieux où le cheval peut prospérer. Mais ces types-là ont de chevaux, sous l'effet des guerres, des bouleversements, des systèmes politiques, du désir de mécaniser, de moderniser, ces chevaux-là ont plus ou moins disparu. Mais là où ils sont omniprésents, c'est dans l'allégorie. C'est-à-dire que, avant de partir en Corée du Nord, évidemment, j'ai voulu me plonger dans la Bible, qui est en l'occurrence les mémoires de Kim Il-sung, le fondateur de cette
de la dynastie,
le fondateur de ce régime, qui raconte, et d'ailleurs j'ai découvert, c'est formidable, je le recommande aux auditeurs, c'est un très bon écrivain. Autant ses discours sont illisibles, insupportables, autant ses mémoires valent la peine d'être lues, plein d'anecdotes, plein de détails intéressants. Et alors, dans le volume 3 de ses mémoires, parce qu'il y a 5 volumes, au chapitre 5, j'ai découvert un chapitre qui s'intitule « Mon cheval blanc ». Et alors, Kim Il-sung raconte comment, alors qu'il dirigeait les maquis anti-japonais, comment un jour, un de ses maquisards, pour soulager sa fatigue, lui a amené un cheval, lui qui connaissait rien aux chevaux. Il savait pas très bien, même sans doute, reconnaître l'avant de l'arrière. Il savait pas très bien comment brosser son cheval, comment le nourrir.
Mais après, il a su comment s'en servir,
voilà,
symboliquement.
Naturellement. Et alors, petit à petit, il raconte tout ça, il raconte comment ce cheval même a fini par lui sauver la vie. Et du coup, c'est peut-être l'explication d'origine du fait qu'il a choisi comme allégorie de la manière dont on doit se comporter en Corée du Nord, on doit se comporter comme un cheval, c'est-à-dire aller de l'avant.
Bon, ça fait partie effectivement de la propagande, mais tout de même, alors on n'a pas trop le temps de développer, mais vous avez découvert en Corée du Nord, qui est quand même un pays qui a des problèmes économiques graves, on parle souvent des famines en Corée du Nord, il y a un gigantesque complexe équestre qui a ouvert récemment dans la banlieue de Pyongyang.
Oui, alors, ceux qui
donc
restent,
on les monte ces chevaux quand même.
Oui, absolument, mais ceux qui restent sur l'image d'une Corée du Nord figée dans la pauvreté, la famine, etc., devraient quand même rafraîchir leur connaissance. On assiste en ce moment, sous l'effet sans doute de la direction du jeune Kim Jong-un, on assiste à une indiscutable tentative d'offrir aux populations de Pyongyang, en tout cas, autre chose que de la doctrine, de l'endoctrinement, des slogans et des défilés militaires. Donc un peu de loisirs, un peu de possibilité de se distraire, l'ouverture de restaurants innombrables et accessibles, pas à tout le monde, pas aux paysans, pas aux riziculteurs, mais enfin aux citadins. Il a ouvert, là, au cours de ces 3 ou 4 dernières années, un centre de loisirs aquatiques genre Aquaboulevard. Il a fait créer une station de sport d'hiver aux portes de Pyongyang. Il a fait entièrement rénover le zoo, qui est devenu un parc qui est extrêmement agréable de visiter sur quelques centaines d'hectares. Une espèce de parc d'attractions dans lequel il n'y a pas d'énergie.
Mais alors quoi, c'est paradisiaque,
la Corée du Nord? Non, j'ai pas dit ça. Non, je dis. Je dis simplement qu'il n'y a pas que des goulags. Malheureusement, sans doute, ces camps continuent à exister. Oui, j'imagine. Enfin, je n'ai pas pu le vérifier, alors que ce que j'ai pu vérifier, c'est l'existence de ces lieux de loisirs dont je vous parle.
Dont ce centre équestre.
Mais voilà, c'est ça. Le plus étonnant, c'est que dans ce pays qui n'est pas un pays à chevaux, tout d'un coup, on a créé là un complexe équestre absolument magnifique, grandiose. J'ai passé ma vie à visiter des centres équestres, des haras, etc. J'ai rarement vu une installation aussi parfaite, avec une piste pour les courses de vitesse, des manèges géants, des écuries parfaitement tenues, dans lesquelles se trouvent une centaine de chevaux, mais qui sont des chevaux d'origine russe. En général, ce sont des chevaux Orlov. Et en effet, les enfants peuvent venir faire là un baptême du poney. Ceux qui en ont envie peuvent venir s'initier à l'équitation. Alors l'équitation, là, la Corée du Nord, rassurez-vous, enfin dans le cas où vous auriez été inquiète, ne pourra pas participer demain aux Jeux Olympiques. Ils en sont encore loin. Ils sont d'un niveau équestre encore balbutiant, mais ça existe. Voilà, c'est une grande surprise. Voilà.
Voilà, comme quoi, lorsque l'on voyage, comme vous le faites, Jean-Louis Gouraud, à la rencontre des chevaux et des cultures équestres, on a quelques surprises et on est amené aussi à être invité dans des pays difficiles d'accès. Alors, dans cette petite géographie amoureuse du cheval, donc, il y a pas mal de textes nouveaux. Vous reprenez aussi quelques-unes de vos pérégrinations d'avant. Mais pour faire un point justement, ces cultures magnifiques, très complexes autour du cheval et partout dans le monde, vous auriez tendance à penser qu'elles sont plutôt en renaissance ou plutôt en péril à l'échelle mondiale?
Hélas, on assiste aux deux phénomènes simultanés. C'est-à-dire qu'il y a des régions du monde où le cheval est en train de disparaître faute d'emploi. Vous savez, le cheval est un animal entièrement dépendant de l'homme. Quelqu'un qui avait la compétence de le dire ou de l'affirmer rappelle que sans la domestication, le cheval aurait probablement disparu de la planète. C'est-à-dire que toutes les espèces sauvages ont disparu de non pas à cause de la prédation de l'homme, mais tout simplement parce qu'elles n'étaient plus adaptées à la nature dans laquelle ils évoluaient. Donc l'existence même du cheval est entièrement dépendante de celle des hommes. Et les hommes ne développent les chevaux que quand ils en ont besoin. Et tous les grands usages classiques, qui étaient le transport,
le labour,
l'agriculture, la guerre... Évidemment, dans ces trois activités-là, le cheval n'est plus nécessaire. On a trouvé des trucs qui vont plus vite, qui portent plus de poids, etc. Et donc, il y a eu une reconversion dans les pays dits développés, une reconversion assez longue et assez difficile vers le cheval de loisir. Mais dans les pays où les revenus moyens ne permettent pas de penser au loisir, en effet, des races entières, des pans entiers de cette biodiversité équine sont en train de disparaître. Je reviens par exemple de Kabardino-Balkarie, qui est le pays des Tcherkesses dans le Caucase russe, où le cheval était un cheval traditionnel qui était utilisé par les bergers, par les guerriers, etc. Maintenant, les bergers préfèrent utiliser des motos, des 4x4, etc. Donc la race est menacée de disparition. C'est vrai aussi dans la région du Don, où le cheval du Don remontait les Cosaques. Il n'y a plus de Cosaques, le cheval du Don est menacé.
Avec en même temps donc des entreprises comme celle dont vous nous avez parlé. Donc c'est un bilan très nuancé que vous portez d'ailleurs dans cette petite géographie amoureuse du cheval, Jean-Louis Gouraud, qui vient de paraître chez Belin, qui a été l'occasion de notre réunion. Je rappelle que vous dirigez la collection Arts équestres chez Actes Sud. Alors on se demande à l'occasion si le ministère de la Culture va créer un département des arts équestres. Puisque l'actuelle ministre est directrice des éditions Actes Sud.
Absolument, ce serait une bonne idée.
On compte sur vous, alors. Voilà, ainsi se termine Tout un monde, le magazine des cultures. À la prise de son, Valérie Lavalard. À la réalisation, Nathalie Salle. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Fraissel. La copieuse bibliographie de Jean-Louis Gouraud est sur notre page Tout un monde du site France Culture. Où vous avez rendez-vous avec Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.